Bonjour à chacun. Nous venons d'entendre Dubar, revu et un peu revisité par un groupe, un quartet, avec Balalaïka, russe, rencontré lors de nos petites pérégrinations du côté de l'Autriche, Vienne, etc. Alors bonjour à chacun, bienvenue. Ce matin, c'est le début des vacances, et c'est chouette de commencer ce début, cette semaine, cette journée, par ce temps de rencontre avec notre Dieu, notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. Alors bonjour à tous, bonjour à mes petites filles qui sont là, Margot et Louise. Aux autres enfants, il y en a quelques-uns ce matin. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose pour eux après, on verra tout cela. Je vais vous lire un psaume, le psaume 16, enfin une partie de ce psaume. C'est un hymne de David. « Joie d'un homme sauvé de la mort », s'intitule ce psaume. « Garde-moi, ô Dieu, c'est en toi que je trouve un abri. Je dis au Seigneur, tu es le Seigneur, tu es mon bien, il n'y a rien, rien au-dessus de toi. » Verset 5, « Le Seigneur est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. La part qui me revient est un lieu de délices. » C'est un patrimoine magnifique pour moi. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, les profondeurs de mon être m'instruisent. Je contemple constamment le Seigneur devant moi. Quand il est à ma droite, je ne vacille pas. Aussi mon cœur se réjouit, ma gloire est dans l'allégresse, ma chair même repose en paix. Pardon, en sécurité. Car tu n'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton fidèle voie la fosse. Ailleurs, il est dit la pourriture. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance de joie devant toi, des délices éternelles à ta droite. La droite, je vous rappelle, est la place d'honneur. Un psaume magnifique que j'ai lu il y a quelques jours et qui m'a vraiment touché. Alors, il y a quelques temps, avec Anne-Béatrice, j'ai eu le plaisir, et je vous conseille d'aller voir une exposition au Muséum d'histoire naturelle de Genève sur les dinosaures. Ces dinosaures, j'ai pris quelques photos, c'est des dinosaures qui sont exposés là, notamment un, il a 150 millions d'années. 150 millions d'années! Ça me rappelle un film où le gars disait il avait gagné 4 millions de dollars. 4 millions de dollars! 150 millions d'années. Voilà, c'est celui-là. On a vu sa tête. Ben là, on ne voit plus grand-chose. Il faudrait éteindre les lumières devant. Voilà. Ça, c'est un tyrannosaure. Ça, c'est une reproduction. Mais grandeur nature, c'est relativement gros. On continue. Voilà. Peut-être enlever ces lumières-là. On doit y arriver quand même. Les autres. Voilà. Vous le voyez, j'espère. Donc ici, vous avez un diplodocus, 27 mètres de long, 150 millions d'années. C'est des os véritables, ceux de l'époque qui étaient là. Ce n'est pas du plastique ou une reproduction quelconque. Vous pouvez presque les toucher. 150 millions d'années. Et c'est un paléontologue suisse qui a découvert dans le Wyoming ce squelette qui a 80% des os qui étaient encore là. C'est incroyable. Alors, comme c'est un Suisse, c'est la première mondiale de cette exposition à Genève, au Muséum d'Histoire Naturelle. Très intéressant. C'est jusqu'au 12 mars. Vous avez encore quelques jours pour y aller si ça vous intéresse. 150 millions d'années. On peut rallumer ici, là. C'est impressionnant. Pour ma part, j'étais un peu impressionné, quoi. Voir des os, là, qui ont 150 millions d'années. Devant ce squelette de dinosaure, j'ai une certaine réflexion m'a envahi. Qui suis-je, bien sûr? Qui suis-je? Avec mon temps sur Terre, de 50, 60, 80, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins d'années. Je suis, comme dit la chanson, un grain de poussière. Rien. J'apparais et je disparais. Plus de traces. La vie, ma vie, votre vie, un petit voyage sur la Terre de quelques années. Qu'est donc l'homme, ô Éternel, dit le psaume 8. Quand je vois le ciel, les étoiles, la lune que tu créas, qu'est donc l'homme, ô Éternel? Quand je vois les dinosaures, ils sont plus là, d'il y a 150 millions d'années, qui suis-je? Qu'est donc l'homme, ô Éternel? Pour que tu prennes garde à lui, pour que tu te souviennes de lui. Et pourtant, Dieu m'a créé, Dieu nous a créés, à son image, nous dit la parole. Et nous sommes importants pour lui. Et comme le dit le psaume 16, dans les ADA de nos vies, parce que David il chante ce psaume, parce qu'il était délivré de la mort, dans les ADA de nos vies, il est là. Il est notre recours en toutes circonstances. Si nous confessons, verset 2, je dis au Seigneur, je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain. Je dis au Seigneur, tu es le Seigneur, tu es mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. Je confesse, si nous confessons Dieu, il est là avec nous. Cette courte vie qu'il nous offre, on peut la lui confier. Le Seigneur est mon partage, ma coupe. La part qui me revient, un lieu de délice, c'est un patrimoine magnifique pour moi. On peut donc nous confier en lui. Et ce verset 10, qui a été repris dans l'Évangile au sujet de Christ, « Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. » Parce que Dieu est un Dieu de vie. Il nous promet, si nous le confessons, qu'il ne nous abandonnera pas dans le séjour des morts. Verset 11, « Mais tu me feras connaître ou découvrir le sentier, le chemin qui mène à la vie, qui nous mène à la vie. » Il va nous faire découvrir ce chemin-là. Dans ce temps incroyable de la création, il nous rappelle les choses essentielles, que même avec nos petites années ici, on est important pour lui. Et il veut nous montrer ce chemin et montrer à tous ceux qui nous entourent ce chemin qui mène à la vie. Et cette vie éternelle, qu'est-ce que 150 millions d'années comparé à la vie éternelle? Rien. Roger nous entendra un petit peu dans son message de cette vie et de cette vie invisible qui nous attend. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour cette assurance que tu mets au fond de nos cœurs aujourd'hui. Et si nous sommes réunis, c'est parce que nous croyons en tes promesses pour nous, à ce que tu as fait pour nous. Et merci pour cela qui est inscrit au fond de nos cœurs par ton doigt. Merci parce que dans ce petit temps qui nous est donné, tu es avec nous, tu es notre recours en toutes circonstances. Et Seigneur, dans tout ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui, il est bon de se rappeler que tu es celui qui a tout créé, celui qui tient toutes choses. Et il est bon de pouvoir nous tourner vers toi et nous confier en toi. Alors nous te remettons ce culte et que vraiment nous puissions recevoir de ta part cette parole de vie. Et que nous puissions aussi te remercier et te dire notre reconnaissance. En Jésus-Christ, Amen. Voilà. Alors nous pouvons chanter ce premier chant. C'est vers toi que je me tourne. Je veux, je confesse, je veux marcher dans tes voies. C'est vers toi que je me tourne. Il n'y en a point d'autre. À qui irions-nous ? Et le premier chant que j'ai choisi, c'est le roi dans sa splendeur. C'est un chant qui loue Dieu pour ce qu'il est. Ce n'est pas un chant où on loue Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. On essaye, c'est difficile de louer Dieu pour ce qu'il est. Et pas pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas que ce soit faux de le louer pour ce qu'il a fait, mais le louer pour ce qu'il est. Le roi dans sa splendeur. Et si on nous tournait vers ce Dieu qui, au travers de toutes ces années, nous aime.
Le roi dans sa splendeur.
401, Dieu très saint, trois fois saint. Alors maintenant, nous pouvons dire à notre tour, ô Dieu, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Je veux me réjouir en toi. Je propose qu'on peut s'asseoir et si une ou deux voix veulent se faire entendre pour reconnaître et adorer ce Dieu qui nous unit, faisons-le en toute liberté.
Amen.
Tu t'intéresses à nous. Tu t'inquiètes pour nous. Tu nous aimes. Merci. Amen.
Gloire et louange au Dieu invisible, gloire au Dieu des créations que nous voyons. Nous ne voyons pas, mais nous voyons des œuvres et c'est la adoration que nous utilisons dans nous. Joie et notre reconnaissance de ta part. Béni sois-tu.
Amen. Amen. Et c'est en ton nom, Seigneur, parce que comme l'a dit notre frère Bernard, parce que tu t'es donné, parce que tu es venu, parce que tu t'es intéressé à nous, tu ne nous as pas laissés. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous sommes là aujourd'hui. Chantons ce chant en ton nom, Seigneur. Nous sommes là, tous réunis devant toi. Nous sommes là devant ce Dieu, devant lui, parce qu'il est déjà là, il nous a précédés. Et on peut aussi le dire de manière plus personnelle, même si on est ensemble, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Dans ce culte, dans ces moments, dans les circonstances de ma vie, c'est ce Dieu glorieux qu'on a chanté, et c'est auprès de lui que je veux me tenir. Et puis le chant suivant, ce sera « Oh, j'ai besoin de toi ». de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Et reconnaître aussi que ce Dieu peut venir dans toutes les circonstances de nos vies. Et même dans ce moment de culte, pour entendre sa voix, que son esprit nous parle. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi pour te discerner, pour voir qui tu es, pour comprendre tes œuvres, comprendre ce qui nous arrive, comprendre ce qu'on ne comprend pas, ou l'accepter. Nous avons vraiment besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin de toi. Merci parce que tu viens nous le dire, et c'est vrai que tu es là. Et nous avons besoin encore de toi ce matin pour comprendre, accepter, mettre en œuvre la parole que tu vas nous dire. Nous t'adorons, nous te louons, ô Dieu puissant, qui nous remplit jusqu'au bout de nos doigts. Amen. Nous allons, merci au groupe des musiciens qui ont dû faire avec moi, c'est pas toujours facile. Roger, qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin, nous propose de nous arrêter dans un texte connu, mais difficile à sentir, de Paul, à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 5, verset 10. Je vais lire. Voilà. C'est pourquoi, dit Paul aux Corinthiens, nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous, l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de détresse insignifiant pour nous, au-delà de toute mesure, produit un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fabriquée par des mains humaines. Aussi, nous soupirons dans cette condition. Nous souhaitons vivement revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. S'il est vrai qu'une fois vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous soupirons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, pour que le mortel soit englouti par la vie. Et c'est Dieu qui nous a produits à cette fin même, lui qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, sachant que tant que nous sommes chez nous, dans ce corps, nous sommes en exil, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Nous sommes cependant pleins de courage, et nous aimons mieux être en exil, loin du corps, pour être chez nous, auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons un point d'honneur à être agréés par lui, que nous soyons chez nous, ou en exil. Car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ pour que chacun recueille, selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. On va prier pour Roger, qui va essayer d'éclairer pour nous un peu ce texte pas toujours facile. Seigneur Jésus, tu bénis Roger. Tu le gardes au milieu de nous, tu le réjouis dans ce temps où il annonce ta parole, où il nous dit quelque chose de ta part. Tu le bénis, tu le remplis de ton Esprit Saint, tout particulièrement maintenant. Merci parce que tu veux à chacun dire quelque chose ce matin. Amen. Excuse-moi.
Nous ne perdons pas courage. C'est l'introduction de ce texte, phrase que l'apôtre Paul va répéter à 4 reprises, parce que ça commence au chapitre 4, verset 1, en fait, où ça, il dira « Nous ne perdons pas courage ». Si l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà un texte pour quelqu'un qui vient de passer le cap des 65 ans. Comment ça va? Les gens voulaient le savoir. Comment va l'apôtre Paul? Et on nous dit comment ça va. Il a les différentes étapes de la vie. Si on vient de fêter ses 91 ans, ce qui est le cas pour certains, ou les 80, ou les 65, c'est légitime de se poser la question, alors comment ça va? À la veille de mes 65 ans, j'étais saisi par un mouvement irrationnel mais irrésistible, de me frictionner les articulations avec ce balsame. C'est Heidi Heiniger recommande baume de cheval pour tout remède. Et puis donc je me suis surpris à dire mais voilà, c'est le moment de commencer. C'est le fer de balsame. Est-ce que c'était là le bon réflexe en passant ce cap? Comment ça va? On demande et on nous le demande. Pour certains, la réponse, c'est en pleine forme. Pour d'autres, c'est peut-être un temps de deuil, confronté par le chômage, solitude, une opération qui s'annonce, lutte contre la dépression, une maladie de longue date, et on est obligé de répondre, mais ça va difficilement. Paul, l'auteur de notre texte, connaît aussi ses épreuves. On n'a pas eu le temps, mais si on avait lu le chapitre 4, versets 8 et 9, nous sommes pressés de toute manière, désemparés, persécutés, abattus. Mais il n'a pas dit que ça, parce que j'ai lu que la moitié de ces deux versets. Il a dit « sommes pressés, mais non écrasés ». Pressé, il était à Damas, à Jérusalem et bien d'autres endroits. Désemparé, paraît-il que ça veut dire littéralement écartelé ou tiré, mais que l'élastique ne casse pas. Désemparé, mais non désespéré. Persécuté, il était dans tous ses voyages missionnaires, mais non abandonné, on l'a dit ce matin. Abattu, c'est un terme qui vient du boxe. Par terre, mais pas jusqu'à 10. Pas OK, mais pas KO, on pourrait dire. Et pourtant, à travers tout cela, il peut affirmer « Nous ne perdons pas courage » à 4 reprises dans ces quelques versets. Alors, ce matin, je propose qu'on découvre ensemble son secret. Comment ne pas perdre courage? Et je vais proposer d'avoir la vision double, de voir la double réalité, mais il y a quand même aussi une mise en garde. D'abord, la vision double. Est-ce que vous avez remarqué peut-être dans cette lecture qu'il y a toute une série de contrastes? L'extérieur, l'intérieur. L'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Il y a affliction et gloire, visible, invisible, momentané, éphémère, passager, éternel. Il y a une demeure terrestre, Il y a un édifice qui va durer pour toujours. Il y a une tente, édifice permanent, la vue et la foi. Et il y en a d'autres encore dans ce passage. Donc il y a deux réalités qui se présentent devant nous. Et quand on nous demande comment ça va, en fait, qu'est-ce qu'il faut considérer? Quelle réalité? Côté sombre, côté lumière. Est-ce qu'il y a une clé quelque part pour nous? Que comme Paul, loin de perdre courage, que nous soyons toujours pleins de courage pour le voyage, comme c'était dit ce matin, ici-bas. Comment rester conscient de cette double réalité? Alors, on a chanté, d'âge en âge, il règne. Et c'est important de se rappeler que la Bible parle de deux âges. Il y a l'âge présent que nous vivons, il y a l'âge à venir, des fois traduit le monde présent, le monde à venir. Le monde présent, passager, le monde futur, l'âge futur, permanent. Et si on ne voit que cette colonne-là, l'extérieur qui se détruit, les afflictions, le visible, l'attente, on est tenté de dire, mais mangeons et buvons, car demain, nous mourons. On est tenté de dire, mais pourquoi se lever le dimanche matin? La vie, en fait, pour vous, dans cette colonne, serait qu'une descente périlleuse, un déclin inévitable. Et si la Bible propose qu'une consolation pour le temps présent, cet âge, alors ce n'est pas très gai si on ne vit que pour l'avenir. Mais Paul a un autre message qu'il nous propose, qui est une bonne nouvelle. La vie nouvelle offerte en Jésus n'est pas une descente périlleuse, mais une montée glorieuse. Et on s'y prépare et on s'y est préparé de jour en jour par l'action de l'Esprit en nous. Alors, ma première question, est-ce que vous avez cette double vision? Car il y a une double réalité. Notre homme extérieur se détruit. Notre homme extérieur, notre être extérieur, fait partie de ces choses visibles, destinées à disparaître. Les choses visibles sont momentanées. Ces choses qui ne vont pas toujours très fort, qui sont fragiles, l'image que Paul va utiliser, c'est d'une tente, ce qui n'est pas du tout permanent. Il y a l'extérieur et puis il y a l'intérieur. L'intérieur fait partie de ces choses invisibles qui sont destinées pour l'éternité, avec au milieu une prise en charge quotidienne par le Saint-Esprit, dès ici-bas. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, les invisibles sont éternelles. La bonne nouvelle, quand nous commençons à prendre de l'âge, c'est que le déclin physique est en proportion inverse au renouvellement de l'être intérieur par le Saint-Esprit qui est effectué de jour en jour. L'un descend, l'autre monte. Il y a quand même un « si », ou plutôt un « parce que ». Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour si nous regardons, ou parce que, semble-t-il, ce serait une traduction juste, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Et un commentaire précise, c'est impossible de focaliser pleinement sur le visible et l'invisible simultanément. Ce serait toujours l'un aux dépens de l'autre. Et c'est à nous de choisir vers quelle réalité nous fixons le regard. C'est un défi. Et heureusement que Dieu est à l'œuvre en nous par l'Esprit pour nous aider à toujours réajuster le viseur. Donc, nous ne regardons pas au déclin qui est visible, si, quand même, un peu. Mais nous ne regardons que le déclin qui est visible, mais nous regardons surtout à la rénovation qui est pourtant invisible. L'un conduit au déprime, aux actions bizarres, comme se frotter avec baume de cheval, encore plus bizarre un lifting, ou encore plus bizarre se faire congeler dans l'espoir d'on ne sait pas quoi. Ça, c'est un regard. L'autre regard nous oriente vers le vrai lifting, si le Seigneur Jésus vient de notre vivant. Ou s'il faut plier définitivement cette tente pour rester dans l'image de notre texte, nous savons que ce serait pour entrer dans cette résidence permanente qui nous est réservée au ciel. Nous savons en effet, 5.1, que si notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Mourir, donc, ce n'est pas devenir SDF. Il y a un corps céleste qui nous attend. Il y a une résidence permanente. Dieu la prépare pour nous. Et c'est du 5 étoiles en comparaison avec la tente plantée là au camping municipal du présent. Dieu la prépare pour nous. Et le Saint-Esprit nous prépare pour elle, cette résidence permanente. Et ceci, même à travers les afflictions. C'est pour ça que Paul peut dire, nous ne perdons pas courage, parce qu'il insère les afflictions que nous traversons tous dans l'optique de cet avenir glorieux. La réalité présente, elle n'est qu'une sorte de gym pour le fitness intérieur, ou si vous préférez, un salon de beauté pour l'âme. Je ne sais pas si je vous avais déjà raconté, vous pouvez m'excuser avec l'âge en attendant ça se répéter. Il y a un intervieweur, celui qui fait les entretiens à la télé quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Michael Parkinson. Et on lui a posé la question, quelle est la personne la plus belle que vous avez eue à interviewer? ayant pensé que ce serait Sophia Loren, vous vous souvenez de l'époque, ou encore d'autres beautés, et il a surpris la personne qui lui a posé la question en disant que c'était Catherine Booth, la fille du général Booth, fondateur de l'armée du salut, cette femme qui s'approchait de ses 90 ans quand elle était sur, avec lui à la télé. Et pourquoi c'était la femme la plus belle qu'il a interviewée? C'est parce qu'elle avait intégré les difficultés, les défis, les souffrances qu'elle avait traversées. Elle les avait intégrées comme faisant partie du traitement de beauté de l'être intérieur. La formation du caractère qui préparait pour ce qui est permanent, pour la réalité qui dure. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous voyez les deux réalités? Deux visions, deux réalités et une mise en garde. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on, dans cette vie, on n'attend que le lift-off, le décollage alors? Notre corps, cet être extérieur, ne serait-il qu'une sorte de capsule, fusée, rampe de lancement vers ce qui est permanent, éternel? Ou est-ce que notre corps est plutôt une sorte de laboratoire, un lieu de préparation essentiel où tous les tests nécessaires sont effectués avant l'envol final? Pour revenir à nouveau sur l'image de notre texte, une tente, on le retrouve plusieurs reprises. Notre texte nous dit que ce n'est pas indifférent ce qu'on fait pendant la saison du camping. 5-9. Nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans cette tente, soit que nous la quittions. Notre comportement présent conforme la destination éternelle que nous visons. Sinon, on sème la confusion dans l'esprit des autres campeurs, actuels ou en devenir. Paul tient à rappeler à la fin de notre passage que tout comme lui, qui a dû se tenir devant le tribunal de Gallien à Corinthe, tout comme Jésus a dû se tenir devant le tribunal de Pilate à Jérusalem, ainsi chacun aura à se tenir devant le tribunal de Christ. 5, verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, qui, il a déjà précisé dans son premier courrier, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Voilà la mise en garde pour chacun d'entre nous. La réalité, pour le moment invisible, qui nous délivre de l'absence de sens dans notre parcours sur cette terre. En fait, toute parole, toute attitude, toute action ou réaction est importante face à l'éternité. L'utilisation des talents qui nous ont été confiés sera mise en valeur. Il y a des couronnes à recevoir, ou tout comme ces athlètes qui ont eu des pratiques douteuses à recevoir ou à perdre. ce qu'on fait dans ce corps sera évalué. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Une évaluation qui vise à conduire vers la condamnation? Non, pour le chrétien, parce que c'est dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Le but de ce tribunal se trouve tout ailleurs. Le but est de viser l'approbation que chacun d'entre nous entendra ses bien, bons et fidèles serviteurs. Si nous entendons cela, je crois que tous nous regarderons en arrière pour penser, mais ce n'est pas de moi que le juge veut dire cela. Il y a de quoi perdre courage peut-être, mais qui a mesuré la miséricorde et l'amour infini du Seigneur? C'est l'introduction de notre passage au chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Paul n'oublie jamais où le Seigneur est allé le chercher. Mais nous n'abusons pas de cette grâce qui nous a été manifestée. Il y a une mise en garde sérieuse. Je conclus. Nous ne perdons pas courage parce que même si l'être intérieur se détruit, l'être extérieur se renouvelle de jour. Je lis. Nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur, être extérieur, se détruit, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Merci, vous me suivez. Je ne vais pas ranger le baume de cheval, mais je ne vais pas compter dessus non plus. Vos amis, comme les amis de Paul, s'inquiètent sans doute comment ça va. Comment ça va devant les multiples épreuves et afflictions de cette vie qui sont, nous le savons, bien réelles. Notre réponse, comment ça va? Nous ne perdons pas courage. En fait, en y pensant, nous sommes pleins de courage. Le secret, c'est la double vision. C'est là où on choisit de porter le regard, non pas sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Parce que les choses visibles sont que momentanées, tandis que les invisibles sont éternelles. Dans cette vie, le traitement de beauté intérieure est en cours et sans doute nécessaire. La très belle reine Esther a dû avoir un traitement de beauté de toute une année, mais c'était pour l'extérieur. Le traitement de beauté pour l'intérieur dure toute la vie. Et est souvent plus douloureux pour Paul comme pour chacun d'entre nous. Mais nous n'oublions pas les deux réalités. Il y a une double action en cours, la descente la montée glorieuse. Donc, tout comme la fiancée attend le grand jour de son mariage, nous avons une attente qui nous anime, qui nous mobilise dans le présent, qui oriente nos choix, qui nous remplit de joie malgré les afflictions et malgré les années qui passent, si c'est 90, 80, 65 ou 16. La mise en garde est là pour concentrer notre esprit. Nous sommes tellement sujets aux distractions. Il y a un poids éternel de gloire qui nous attend. Là, il n'y aura plus de camping, plus de balsame, plus de larmes. Il y a un édifice qui est l'ouvrage de Dieu qui nous attend. Fixons les regards dans la bonne direction. Amen.
Merci Roger, je propose que nous ayons quelques moments de silence qu'on terminera par un temps de prière communautaire suite à ce qu'on vient d'entendre. Parce que tu as vu, tu as cru, dit le Christ à Thomas. Et de poursuivre en disant, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Seigneur, augmente en nous la foi afin de regarder à ces choses invisibles, à ces choses cachées, mais que tu nous révèles, en nous rappelant que tu es le fidèle. Et ce que tu nous as dit et promis s'accomplira. Amen.
Par amour, par amour pour toi.
C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. Si nous nous plaçons sous ce sang de l'agneau, alors plus de crainte par rapport à ce qui va venir, par rapport à ce tribunal de Christ. Mais ça sera le bon et fidèle serviteur. Viens, viens vers moi, je t'attends. Chantons le numéro 344 pour nous introduire dans ce moment de communion de la Sainte Cène. C'est ton sang qui purifie. Merci. Avant d'introduire la Sainte Cène par le texte que nous lisons habituellement, j'aimerais dire un peu plus loin. Après la résurrection de Jésus qui apparaît à ses disciples et il leur dit ceci. Donc ils sont réunis ensemble et puis il y a des disciples qui leur disent, ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui disent aux autres disciples, on a vu le Christ. Alors, il s'étonne, il parle, bien sûr. Comme il disait cela, lui-même se présenta au milieu d'eux, donc Jésus, et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Première parole du Christ ressuscité à tous ses disciples réunis, « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi des doutes vous viennent-ils? Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. » Palpez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez, j'en ai un. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et un peu plus loin, verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. J'aime bien cette dernière phrase, le changement radical. Changement radical, du visible à l'invisible. Hein. Changement radical, ce pardon qui purifie, ce sang qui a coulé, ce pardon nous donne la vie. Ce pardon nous permettra, et cette espérance nous permet d'aller plus loin, de prendre l'ascenseur. Quoique, on est toujours là, bien sûr. Mais de vivre avec cette espérance. Ensemble, frères et sœurs, quelle joie de communier, de partager ce pain, partager ce vin, un repas. Petit, mais quelle importance. Alors mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Mais nous mourrons dans l'espérance de ce qui nous attend, de ce monde invisible, de cette demeure extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que ce soit pour nous, qu'on soit jeune, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, qu'on soit plus âgé, plus près de la porte d'entrée dans ce paradis, cette parole. Et pour nous. Alors, on va lire l'introduction de la scène dans Luc 22, au verset 14. Merci Roger. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres et il leur dit, « Je vivement désirais manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « C'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. »
Avec Paul, dans ce même passage, nous disons, c'est à cause de Jésus, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que nous sommes là, présents, que nous participons à ce repas, dans l'attente que nous sommes de te rejoindre pour toute l'éternité à venir. Nous saisissons aussi cette occasion en nous plaçant devant toi déjà maintenant, à nous laisser sonder. Nous te prions de voir si nous sommes sur ce bon chemin. Éclaire-nous, Seigneur, afin que nous puissions participer en sachant que tout ce qui nous a séparés de toi est maintenant placé sous ton sang. Et tu attends à nous accueillir avec tes paroles d'approbation. Parle à nos cœurs, nous prions en ton nom. Amen.
Amen. Si nous deux personnes pouvaient nous rejoindre pour nous aider à distribuer. Concernant le vin, au centre des plateaux des gobelets roses, dans lesquels il y a du jus de raisin, et ceux qui désirent la coupe lèvent la main, et Roger la leur apportera. Pendant ce temps de Sainte-Seine, si quelqu'un veut s'exprimer, dire une parole, une prière, lire un texte, qu'il le fasse librement. Merci Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, merci de ce que tu nous as accueillis à ce repas. Prémisse de ce repas, de ces noces de l'agneau qui nous attendent. Nous te remercions et dans notre reconnaissance, nous t'adorons. Amen. Quelle joie aussi ce matin, tout à coup, en distribuant la scène, de voir notre Nino qui est avec nous. Je crois que c'est le premier dimanche que tu es là depuis que tu as fait ton petit séjour à l'hôpital. Alors bienvenue Nino, plaisir de te voir. Nous allons passer à ce qu'on appelle le temps d'offrande. Nous allons chanter le numéro 400, le couplet 1 et le couplet 3. C'est un chant qu'on connaît, Dieu ta fidélité, ton immense bonté. Il est le fidèle. Et la Bible nous dit que même si nous, nous le renions, lui ne se reniera jamais, parce qu'il est le fidèle. Si nous lâchons sa main, la sienne est toujours tendue. Honorons par nos dons ce Dieu qui, en Jésus-Christ, nous comble en tout, chaque jour de cette vie visible. Merci Seigneur pour ces sous que tu nous donnes, ces sous que nous pouvons te rendre, soit par cette offrande, soit par ce qu'on appelle le compte de chèque. Merci Seigneur parce que tout vient de toi et nous faisons que te redonner en retour à l'amour que tu nous as manifesté. Bénis tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vivent au travers de ces dons. En ton nom, amen. Voilà, nous allons vivre la bénédiction que Dieu, que les annonces après, que Roger va nous faire. Et ensuite, nous vivrons le temps d'annonce. On va terminer notre culte et après nous vivrons un temps d'annonce.
Je reprends la prière du même Paul en faveur des Éphésiens. que le Seigneur nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans notre être intérieur. Que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Allons dans cette paix, cette confiance que le Seigneur nous donne par son esprit et sa parole. Amen.
Bien. Voilà, alors, il y a un certain nombre d'annonces, on tâchera de passer un peu vite. Alors la première, c'est qu'on a besoin de projectionnistes. Vous pouvez vous annoncer auprès de Sylvain Wenger. Je laisse à Christophe Podvica la responsabilité de la transcription anglaise que notre pasteur appréciera à sa juste valeur. Voilà. Bien, on recherche aussi des moniteurs pour les potes. Tu peux passer ? Voilà. Parce qu'il y en a 4 qui partiront cet été, donc on aura besoin de le renouveler. On attend toujours des photos hein, que vous pouvez envoyer à Claude Becher ou à quelqu'un d'autre. Moi, je gère un petit peu ça pour les rassembler, pour constituer un album de famille qui sera utile pour Roger et pour Non, Roger, il connaît tout le monde, pardon, pour Claude et pour les suivants. Voilà. Et puis, on rappelle qu'il y a des listes de diffusion électronique. On n'est pas toujours sûr d'atteindre tout le monde. Donc, si des gens ne reçoivent pas, vous pouvez peut-être passer les suivantes. La dia suivante, il y a une liste Actu Mérin qui indique les événements, qui rappelle les événements de l'Église. Il y a une liste info, on en voit par exemple les ordres du jour, les convocations pour les assemblées générales, qu'on appelle des colloques. Puis il y a aussi le coup de pouce qui permet des échanges de voilà, pratiques, meubles à donner ou à recevoir ou à vendre, ou ce genre de choses. Voilà. Alors le groupe de recherche d'un pasteur invite toute la jeune génération, voilà, je ne sais pas jusqu'à quel âge on est jeune, mais ça, voilà, il n'y a pas de définition précise. Donc, le dimanche 26 février, le dernier dimanche de février, un repas avec table ronde après le culte. Inscription auprès de Xavier Schmitt ou de Sylvain Wenger, voilà, qui nous ont servi la musique ce matin pour les chants. Rappel des ateliers bibliques proposés par Claude Becher avec une série de 4. Alors on peut passer la dia suivante. Le prochain c'est le 21 février, mardi soir. Claude a en réserve une prochaine série d'ateliers bibliques. Je ne sais pas encore bien la date, mais qui sera autour du thème de la réformation. Voilà. Mardi 28 février, prière communautaire, spéciale mission, et on aura la présence de Flavien Negrini, Annette aussi, je suppose. Non, d'accord, Flavien sera seul. D'accord, Flavien Negrini de Poitiers. Voilà. Au mois de mars, on rappelle vite, c'est le 10 mars qu'aura lieu notre colloque. Vous recevrez bientôt les invitations. Le jour suivant, le samedi 11 mars, la journée spirituelle des 3 communautés, donc avec les catholiques et les protestants, c'est tous les 2 ans et ça aura lieu à John Knox avec la présence de Claude Becher qui nous apportera voilà, toute une réflexion intéressante sur le sermon sur la montagne. 14 mars, fil d'argent, encore une fois avec Claude Becher sur la question de la réformation et il y a des prospectus à la sortie qui ont été faits par André Dufour. Les 4 mardis de mars, malheureusement ça tombe sur les mêmes mardis que les ateliers bibliques, au CEPOM il y a une proposition de formation au dialogue interreligieux Il y a des prospectus aussi à la sortie. C'est quelque chose qui est sur inscription et il faut lire le premier chapitre du livre présenté avant de commencer. Voilà. Mi-avril, il y aura service Pâques. Je ne sais pas si toi, tu veux ajouter des choses depuis le fond, Thierry. Mais voilà, on recherche, c'est du vendredi saint au lundi de Pâques. Donc, 14 au 17 avril, toute une action auquel on a déjà participé toutes ces dernières années. Donc, on cherche des volontaires. Il faut s'inscrire dès maintenant ? Oui, vas-y.
Donc, voilà, que ce soit mon amour, tous les photos qui vous fassent envie de venir, j'espère que vous viendrez. C'est vrai que l'Église, divers membres ont déjà bien été engagés dans le service PAC. Donc, merci à ceux qui s'y engagent. Je sais que vous avez l'habitude d'avoir Claude qui vient ici devant. J'espère que vous n'êtes pas trop perturbés. Mais nous, en famille, ça faisait 3 ans. Je fais partie du service PAC, je suis coordinateur. Donc voilà, je vous encourage, tous ceux qui n'ont encore jamais participé, à venir participer au moins une fois, voir ce que c'est. Pâques, c'est vraiment une occasion incroyable de témoigner. C'est assez rare dans un pays d'avoir des fêtes, des congés qui sont voilà, nationaux, cantonaux, et qui célèbrent finalement des choses qui ont à faire avec notre vie chrétienne. Et vous le savez, à Genève, ce n'est pas toujours facile de témoigner, la ville est plutôt réfractaire, mais là, on peut aller dans les rues, on peut dire, ben, c'est quoi Pâques pour vous ? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Ou alors, il y a quelque chose d'assez lointain. Hein, c'est souvent une fête catholique, ça a à voir avec la religion, mais voilà, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Donc, qui va aller leur dire, si ce n'est pas nous ? Alors voilà, je vous encourage, si comme moi, vous n'êtes pas évangéliste dans l'âme et que ça vous fait peur d'aller aborder les gens, service Pâques, c'est parfait. On y va avec des projets, ce qui fait qu'on va servir les gens, et ensuite ça engage des discussions, et puis on peut parler de la foi assez librement, plus facilement en tout cas. Voilà, je vous encourage vraiment, si vous avez des questions, venez nous voir, c'est du vendredi saint au lundi de Pâques, comme chaque année, et on a besoin de toutes les générations. Donc ne vous dites pas, c'est pour les autres, non, c'est vraiment pour tout le monde. Voilà, merci.
Voilà, alors bon dimanche à chacun, café à la sortie, comme d'habitude. Voilà.